ce matin pour la Coupe du Monde 1970, un mondial où deux nouveautés importantes apparaissent, Pierre.
Oui, la première, c'est la télévision. Bien sûr, elle était déjà là, mais la révolution, c'est qu'elle est en couleur. Même si à l'époque, je l'ai vécu, ceux qui possèdent un récepteur télécouleur sont encore rares. N'empêche, la TV, devenue omniprésente en Europe, impose pour la première fois la loi du direct sur les heures des matchs. Décalage horaire oblige, à partir des quarts de finale, ils auront lieu à midi. Tant pis pour le cagnard. Deuxième nouveauté de cette Coupe du Monde, toujours en couleur, les cartes. Auparavant, quand un arbitre excluait ou avertissait un joueur, ce n'était pas toujours très clair. Le code couleur est explicite et international. La première carte jaune de l'histoire est brandie envers un joueur soviétique lors du match d'ouverture contre le Mexique. Quant à la carte rouge, synonyme d'exclusion, a-t-elle eu un effet dissuasif? En tout cas, elle ne fut jamais brandie durant ce mondial.
Bon, le match d'ouverture, vous l'avez dit, oppose le Mexique à l'URSS et il intéresse les Belges au premier chef.
Oui, parce que pour la première fois depuis 1954, la Belgique est qualifiée. Et vous savez, François, qui était l'entraîneur des Diables à l'époque?
Raymond Goutals, j'imagine.
Gagné, ouais. Raymond Goutals, qui ne s'appelait pas encore Raymond Lassian.
Non. Bon,
il frappe pas de miracle, on ne passe pas le premier tour, défaite 4-1 contre l'Union soviétique et 1-0 contre le Mexique. Et pourtant, tout avait bien commencé par une plantureuse victoire, 3-0 contre le Salvador. Et c'est historique, figurez-vous, parce que c'est notre première victoire en phase finale de Coupe du Monde. On se console comme on peut.
Bon, et c'est vrai qu'on ne se souvient pas de ce 3-0 contre le Salvador, Pierre. Le Salvador, qui est en dehors du Mexique, le premier pays d'Amérique centrale à participer à une Coupe du Monde de football. Mais sa qualification est à l'origine d'un épisode aussi dramatique qu'invraisemblable, la guerre du football. Expliquez-nous.
Alors, on repart un an en arrière, en juillet 69, un peu moins d'un an avant le Mondial. Le Salvador et le Honduras doivent s'affronter en match aller-retour pour désigner qui ira à la Coupe du Monde au Mexique. Le contexte est explosif entre les deux pays, parce que le Salvador est surpeuplé et de nombreux Salvadoriens ont émigré au Honduras pour y cultiver la terre. Tout cela sur fond de fortes inégalités sociales. Le foot sert d'étincelle à une terrible surenchère nationaliste dans les deux pays. Les matchs aller-retour sont épiques. Des deux côtés, les équipes visiteuses sont prises pour cible par les supporters locaux qui font le siège de leur hôtel la nuit et les empêchent de dormir. C'est finalement au Mexique, sur terrain neutre, que le Salvador triomphe de son voisin hondurien.
Mais immédiatement, des incidents de frontières se produisent et dégénèrent en conflits armés.
Cela entre dans l'histoire sous le nom de guerre des 100 heures, parce que sous la pression internationale, cette guerre s'arrêtera après 4 jours. Guerre des 100 heures ou guerre du football, parce que même si les racines du conflit, on l'a dit, étaient plus profondes, eh bien c'est bien le foot qui en a été le déclencheur. Heureusement, un an plus tard, en juin 1970, le mondial mexicain sera bien plus paisible. Il est même souvent cité en exemple en termes de spectacle avec au moins 3 matchs légendaires.
3 matchs légendaires, on les passe rapidement en revue avec vous, Pierre. Il y eut d'abord en quart de finale, la revanche de la finale précédente, Angleterre-Allemagne de l'Ouest.
Et en début de deuxième mi-temps, les Anglais mènent 2-0. Ils pensent avoir parti gagné, alors ils font sortir leur vedette, Bobby Charlton. L'excès de confiance se paie cash. Franz Beckenbauer sonne la révolte allemande et les Allemands l'emportent 3-2.
Oh.
En demi-finale, l'Allemagne affronte alors l'Italie. C'est 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Qui a dit qu'il ne se passe jamais rien durant les prolongations? 5 buts en 30 minutes, figurez-vous. Les Italiens l'emportent 4-3. Mais en finale, cette Italie ne pourra rien contre un Brésil au sommet de son art, consacrant définitivement le roi Pelé, qui devient une gloire nationale. Le fondateur de la Coupe du Monde, Jules Rimet, avait décrété que le pays qui l'emporterait 3 fois conserverait définitivement la Coupe. 58, 62, 70, cette jolie statuette art déco prend donc la direction de Rio, où elle sera dérobée en 1983 et disparaîtra à tout jamais.
Merci beaucoup Pierre Marlet.